Parce que mon thème, c'est qu'est-ce qu'un chrétien? Ça paraît simple, ça paraît normal, mais qu'est-ce que le vrai chrétien? Et on va se poser des questions et je vais lancer beaucoup de choses et on va essayer de recevoir. Ça va? Alors tu peux dire je reçois. Amen. Ça aide quand même quand on est un petit peu actif. Alors j'ai reçu une image pendant la nuit. Pour ce matin, et c'était une image des clés. Vous savez, quand vous avez un cylindre où vous avez besoin de faire des copies, vous commencez à faire des copies de clés pour que eh bien plusieurs personnes puissent entrer. Ça marche. Mais si vous faites la copie, vous devez toujours partir de votre clé originale. Le problème, c'est que s'il y a un défaut sur la clé originale ou si vous commencez à copier une copie qui est mal copiée, eh bien, à un moment donné, vous arrivez devant la porte, vous n'arrivez plus à ouvrir la porte. Vous avez un problème et il faut changer le signal, il faut changer le cylindre. Donc gardez vraiment cette image en tête parce que on va y revenir. Alors le chrétien c'est quoi? C'est celui qui croit en Dieu? C'est celui qui vient à l'église le dimanche? Est-ce que c'est juste une façon de penser, une philosophie d'être chrétien? Est-ce que c'est une manière de faire, une manière d'être, une manière de vivre? Une façon de se projeter dans la vie, est-ce que c'est juste avoir de bonnes valeurs? Alors, pour répondre à cette question, il faut qu'on revienne où ça? À l'origine, à notre clé originale. Et notre clé originale, c'est quoi? C'est premièrement Jésus, mais c'est l'Église primitive. Les premiers chrétiens, au moment où on les appelait même pas encore chrétiens. Les gens qui ont accepté de suivre Christ et qui ont commencé à avoir une vie qui était agréable à Christ. Et vous savez, dans nos églises, souvent on parle de l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Ce matin, on a encore chanté l'amour de Dieu pour nous, que Dieu nous aime, qu'il est là, qu'il a fait son sacrifice. Et c'est vrai, parce que le sacrifice de Christ à la croix, c'est la preuve de son amour. C'est la plus grande preuve qu'il pouvait nous donner. La preuve à l'humanité tout entière. Maintenant, on veut le reconnaître ou non, peu importe, mais c'est la preuve qu'il a donnée, qu'il nous aime et qu'il veut nous racheter. Alors, on parle toujours de cet amour. L'amour de Dieu envers nous. Jésus, tu m'aimes. Et on aime bien se dire que Jésus nous aime. Dans les moments difficiles, peu importe, Jésus, tu m'aimes. Et on parle de l'amour de Dieu. Mais moi, j'aimerais vous parler de notre amour envers Dieu. Dans l'autre sens. Comment, en tant que chrétien, notre amour se manifeste envers Dieu? Concrètement, spirituellement, comment aimons-nous Dieu? Et pour Dieu, qu'est-ce que ça signifie l'aimer? Vous aimez tous des amis, une femme, et puis finalement, si vous l'aimez à votre manière, mais qu'elle ne ressent pas votre amour, il y a un problème. La question, c'est comment ma femme veut-elle que je l'aime? Comment mon ami veut-il que je l'aime? Et comment je peux lui prouver mon amour? Eh bien, avec Dieu, c'est la même chose. Quel est l'amour qui est reconnu de notre Dieu? Est-ce que c'est un amour sentimental qui ressent les choses? Tiens, j'ai ressenti la présence de Dieu ce matin, je me sens bien. Est-ce que c'est un sentiment, quand on pense à Dieu, de se sentir aimé de lui, et puis tout va bien? Ou est-ce que c'est quelque chose de plus? Alors, on va lire beaucoup de versets ce matin. Et on va en lire un sacrément long. 14 versets, Jean 14, versets 1 à 14. Et j'aime beaucoup Jésus quand il parle, parce que quand Jésus parle, c'est clair. Il n'y a pas 36 solutions, c'est très clair. Et vous allez voir que c'est assez clair. Jean 14. Tu t'es trompé. Tu m'as mis Jean 11. Nous attendons. Il n'était pas bien réveillé, Louis, ce matin. C'était dur. Quand il a vu ma liste de versets, il a commencé à souffler. Il a dit, ah non ! Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est Jésus qui parle. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Jésus va nous préparer une place dans la demeure de son Père. Déjà, c'est beau, c'est une belle promesse. Alors, je ne sais pas où lire. Là, là ou là. Je suis perdu. Et lorsque je m'en serais allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Encore une promesse. Jésus reviendra. Ce que vous croyez? premier verset, c'est « croyez en moi ». Donc, « croyez en moi », ça veut dire « croyez aussi en ce que je dis ». Je reviendrai. Alors, je suis où ? Je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et là, je vais faire référence à la prédication de la semaine passée. Si vous avez bien entendu la semaine passée, on a parlé d'une place, la dernière intervention, l'intervention de Christ, il nous a parlé d'une place où Jésus siège aujourd'hui. Et là, il dit, je vais vous prendre avec moi au même endroit, la position d'autorité. Vous vous souvenez ? Il faut se souvenir ce qu'on dit les semaines précédentes, parce que c'est important. Ça va ? Alors, vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous connaissez bien celui-là. Hein ? Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Et là, Jésus, il vient donner son identité de Dieu. Là. Tu ne m'as pas connu, c'est moi Dieu. Pourtant, je suis avec toi depuis longtemps et puis tu n'as pas connu le Père. Mais regarde-moi, là c'est fort. Jésus lui dit, attends. Mais tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les ai pas dites de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. À nouveau, croyez en moi. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes. Encore une promesse. Parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, et là on en vient à mon thème, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu feras connaître à nous et au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » En 14 versets, tout est dit. Jésus a tout résumé. Il nous parle, la première chose, c'est de la connaissance. Il nous dit, vous avez besoin de me connaître. Et que cette connaissance va faire quoi ? Elle va produire la foi. Et que cette foi va à son tour produire les œuvres. Et il dit, c'est les œuvres de qui ? C'est les œuvres de mon Père que vous m'avez vu faire. Ensuite, il nous dit, je suis qui ? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Notre fameuse clé. Jésus est la clé, il est la porte, il est le chemin. Et on a besoin de connaître Christ pour pouvoir connaître le Père. Alors tout ça, c'est théorique. Mais en fait, Jésus est en train de parler de quelque chose de très profond. On n'est pas dans une connaissance intellectuelle. On est dans une connaissance relationnelle. Être près de son cœur, connaître son cœur. Vous me connaîtrez. et vous verrez le Père. Celui qui a vu le Père m'a vu. Croyez en moi. Connaître Christ égale connaître Dieu. Et il faut que ce soit clair dans notre tête. Connaître Christ égale connaître Dieu. Tu ne peux connaître Dieu qu'en connaissant Christ. Et on a chanté ce chant qui nous dit « Seule la croix me suffit », c'est ça ?« Seule la croix me suffit ». Vous avez vu, chanteur. Mais seule la croix me suffit. Et j'ai entendu ce chant, j'ai dit « C'est bon Seigneur, on est dans le bon ce matin. Seule la croix me suffit. C'est pas parce que je viens ici ce matin. C'est pas parce que j'ai eu une éducation catholique, anglicane, musulmane, protestante, quoi que ce soit. Non, c'est seule la croix me suffit. Aucun rite peut t'amener près de Dieu. Aucune prière ne peut t'amener près de Dieu. Seul Christ peut t'amener près du cœur du Père. Et ça doit rester clair dans nos cœurs. On a entendu il y a 2 ou 3 semaines, on a commencé par l'esprit, mais on a fini par la chair. Pourquoi ? Parce que tu commences à mal copier ta clé. Tu entends des mauvaises doctrines, des mauvaises choses, tu t'éloignes de Christ. Et là, tu copies mal. Et à un moment donné, tu as besoin de Jésus, tu viens devant la porte, ça ne souffle plus. Et tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai perdu la relation avec mon Dieu. Et tu as perdu la relation avec ton Dieu parce que tu as copié la mauvaise clé. Tu es juste venu au culte le dimanche matin. Et Jésus, il a dit, celui qui m'aime gardera mes commandements. C'est fou, il ne dit pas, celui qui m'aime va ressentir des choses puissantes. Celui qui m'aime va lever les morts, guérir les malades. Il dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. On ne parle pas de ressenti ici. Celui qui m'aime garde mes commandements. Et c'est quoi le premier commandement ? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est ça ou c'est pas ça ? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Amen. L'amour, la foi produit les œuvres. Et vous savez, aujourd'hui, dans notre monde, et surtout dans le monde évangélique, Dieu ne se renie pas. Il y a des personnes qui opèrent énormément de miracles parce qu'ils ont la foi. Ils savent que Dieu est capable. Et il se passe énormément de choses au travers de leurs mains. Et pourtant, Jésus dit, il y en a qui auront prophétisé, qui auront guéri les malades, qui auront fait des choses incroyables. Mais je vais leur dire, je ne vous connais pas. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas fait la volonté de mon Père. Et on peut dire, mais attends, faire la volonté du Père, c'est quand même faire ces choses-là. Mais faire la volonté du Père, c'est suivre ses commandements. Et l'amour produit la fidélité. L'amour envers Dieu, lorsqu'on aime notre Dieu, ça produit notre fidélité envers lui. Notre fidélité, ça veut dire, Seigneur, je veux faire ta volonté, quoi qu'il m'en coûte. Je veux te suivre, je veux te plaire, je veux être agréable à tes yeux. Et le verset que Fred aime beaucoup, c'est quoi ? Hébreux 12 ? C'est « Nul ne peut être agréable à Dieu sans la foi ». On ne peut pas plaire à Dieu sans la foi. Alors, premièrement, il y a la foi et il y a l'amour. Je ne peux pas plaire à Dieu si je ne crois pas en Christ. Ce n'est pas possible. Mais une fois que je commence à croire en Christ, et si je l'aime vraiment, eh ben, il faut que je suive ses commandements. Parce que ça, c'est maintenant la preuve que je l'aime envers lui. Le problème, c'est quand tu es touché par Christ et tu commences à vivre quelque chose avec lui, la foi vient naître en toi et tu crois en lui. Seigneur, tu es mon sauveur. Mais parfois, tu as du mal à enclencher du sauveur au Seigneur, à celui qui va régner sur ta vie. Et les paroles de Paul sont fortes dans ce chant-là. C'est tout ce qui me plaisait, eh bien, ça devient un sacrifice pour toi. Je le dépose devant toi. Ma vie maintenant, j'abandonne tout pour toi. Et l'amour de Dieu, c'est un amour sacrificiel. Ce n'est pas un amour sentimental pour nous. Il a donné toute sa vie. Il a donné sa vie en sacrifice pour nous. Vous me suivez ? Cet amour sacrificiel. Alors, on va voir. La question maintenant, c'est as-tu vraiment le désir de faire la volonté de Dieu ? Et là, je vous pose la question, vraiment, entre nous, on est entre nous. Est-ce que j'ai vraiment, au fond de moi, le désir de faire la volonté de Dieu. Est-ce que vraiment je suis prêt à suivre Jésus ? Parce que quand Paul y parle, il n'y a plus de richesse, il abandonne tout. Hein. Je ne dis pas qu'il faut être pauvre et ces choses-là, mais il faut être prêt à perdre tout pour suivre Christ. Christ a dit « Quitte tout, suis-moi ». Est-ce que vraiment on est prêt à faire la volonté de Dieu? Et parfois, en tant que chrétien, on pense que Dieu nous excuse. On pense que Dieu nous excuse de ne pas faire sa volonté certaines fois. Parce qu'on se dit que finalement, Dieu n'aimerait pas qu'on fasse quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Ah bah Dieu, tu es tellement bon et tu m'aimes. Si c'est quelque chose que je n'ai pas envie de faire, bah finalement, tu m'excuses si je ne le fais pas. Mais ce n'est pas ce que les versets disent. Ils disent, si tu m'aimes, tu fais ma volonté. Parce que tu suis mes commandements. Je ne te parle pas de ce que tu as envie de faire. Je ne te parle pas de tes aspirations personnelles. Je te parle de mes commandements pour ta vie. Ma volonté. Tu as dit que tu m'as donné ta vie. Tu as un jour levé ta main et tu as dit, Jésus, je veux que tu vives en moi. Et maintenant, tu n'as pas envie de le faire. C'est comme si on allait au boulot et puis on disait, ce matin, je ne le sens pas beaucoup. Ce matin, je ne le sens pas. Je n'ai pas envie d'aller bosser. On le vit tous, hein, ça. Je n'ai pas envie d'aller bosser. Et puis, en fonction de notre sentiment, on prend une décision. Si je ne suis pas top ce matin, je vais m'enfouir sous la couette. Et puis, mon patron, il comprendra. Tu comprends? Si je n'ai pas envie, je n'aurai pas le cœur à l'ouvrage. Hein. Et puis, quand on le sent bien, on va travailler avec la joie. Mais avec Jésus, c'est la même chose. Hein. On ne vient pas à lui juste quand on a envie. Ça marche? Et on va lire un verset, et Jésus est clair sur ça. Matthieu 21, versets 28 à 31. Et il nous donne une parabole, une belle parabole. Que vous ensemble, un homme avait deux fils, et s'adressant au premier, il dit « Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et y alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose, et ce fils répondit « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous dis en vérité, les publicains, les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Alors ici, il y en a un, le matin, il dit à son père, il n'y a pas envie le matin. Et son père lui dit, écoute, va à ma vigne, il y a du boulot ce matin pour toi. Et lui, il dit, attends, j'ai pas envie, franchement, j'ai pas envie. Et finalement, il y va. Qu'est-ce qui se passe dans son cœur? Son père lui a dit, il faut que tu ailles. Lui, il n'a pas envie. Mais là, ça travaille en lui, il se dit, attends, papa a dit ça et je ne veux pas le décevoir. Ben, je vais y aller. Il y va. Le deuxième, lui, c'est quoi? C'est, oui, j'y vais, ça va être génial. Il y a du boulot là-bas, il n'y va pas. Et là, Jésus lui dit, bah, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas lui qui a fait la volonté de mon père. C'est clair ou pas? C'est que si on a, Dieu nous dit clairement, ne suis pas tes sentiments. Tes sentiments, ils vont te mentir concernant ma volonté. Et il faut avoir ce désir de suivre vraiment Jésus. Et alors, il nous dit clairement aussi, c'est, faut pas avoir peur. Moi, j'aime cette histoire. Faut pas avoir peur de dire à Jésus, non, j'ai pas envie. Franchement, tu me demandes ça dans ma vie, tu me demandes de faire tel choix. Vous savez, quand on doit pardonner à quelqu'un qu'on n'a pas envie de pardonner, qui vous a fait du mal, vraiment, vous êtes touché. Et tu sais que la volonté de ton Dieu, c'est de pardonner. Et toi, tu n'arrives pas au fond de toi. Tu dis, mais attends, ça me coûte, mais il ne peut pas me faire ça. Et Jésus dit, il faut que tu pardonnes. Et toi, si tu es juste un chrétien religieux, dans ta tête, tu sais qu'il faut pardonner. Donc tu dis, oui, oui, je vais pardonner. Finalement, tu ne passes pas et les années passent et en fait, tu n'as jamais pardonné. Tu es comme ce deuxième-là. Tu dis de ta bouche, oui, j'ai pardonné, mais en fait, tu n'as pas pardonné dans ton cœur. Et Jésus dit, il faut que tu sois capable d'abandonner ça. Ouais, ça te coûte. Mais moi, je te demande de pardonner parce qu'il y aura une bénédiction et une faveur dans ton pardon. En suivant mes commandements, la malédiction que tu as peut-être reçue sur ta vie, je vais la transformer en bénédiction parce que je suis le Dieu de vie. Et je ne te demande pas ce que tu ressens maintenant. C'est peut-être dur pour toi, mais fais-le. Et là, tu cries à Dieu. Tu dis, Seigneur, je n'ai pas envie, s'il te plaît. Donne-moi une autre solution. Il faut que je fasse différemment. Et là, Dieu, il vient à ta porte. Et vous vous souvenez de cette histoire avec Jésus dans le jardin de Gethsémané. Il est arrivé et puis avant la passion. Et il dit, Seigneur, il pleure, les gouttes de sang tombent et il dit Dieu, il parle à son père et il dit mais éloigne cette coupe de moi, j'ai pas envie de le faire, je vais souffrir. Alors là, à ce moment-là, il se tourne vers son père et il dit je peux pas, je suis pas capable, il faut, voilà, ça va pas. Et en gros, il n'y a pas peur de dire à Dieu ce qu'il ressent, je veux pas le faire. Et là, qu'est-ce que fait Dieu? Soit il y avait deux solutions, il lui donnait un autre chemin. Mais là, il lui dit, non, non, c'est ce chemin par lequel il faut passer. Et là, vous avez l'ange qui descend dans la gloire et qui vient encourager Jésus. Et ça, c'est une clé à comprendre. C'est que quand on n'a pas envie de faire la volonté de Dieu, parce que notre chair nous tire vers le bas, il faut crier à Christ, Seigneur, j'arrive pas. Et lui, il va venir, il va t'encourager pour que tu sois capable de faire sa volonté. Souvent, on aime bien dire, mais Seigneur, Dieu ne va pas m'éprouver plus que ce que je suis capable. Ouais, mais si tu pars dans cette mentalité de juste dire, bah, je ne suis pas capable, non, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Bah, en fait, tu ne te confrontes jamais à toi-même. Tu ne te confrontes jamais à la vérité de l'évangile en disant, Seigneur, je ne suis pas capable. Maintenant, viens m'aider. Vous voyez l'idée? On a Jésus qui nous a fait, qui a parlé aussi aux... Vous avez les pharisiens, les sadducéens qui venaient constamment et ils venaient éprouver Jésus. Parce que pour eux, Jésus, ils voyaient ce qu'il faisait, mais ce n'était pas le Messie. Ils ne voulaient pas le reconnaître en tant que Messie. Et ils venaient, ils venaient constamment le tenter. Et ils lui disent, c'est quoi le premier des commandements? Et lui, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ensuite, vous êtes dans Matthieu 5 et vous lisez Matthieu 5. Et il va commencer, il va reprendre tous les commandements. Tu ne tueras pas. Mais moi, je te dis que si tu te mets en colère, eh ben, tu es déjà dans le péché. Je te dis que finalement, si tu, ne serait-ce que tu convoites une femme, eh ben, tu es déjà dans le péché. Et Jésus, il va plus loin. Et il dit, mais en fait, comprenez que vous n'êtes pas capable. Mais si vous vous confiez en moi, si vous croyez en moi, moi, je vais venir vivre en vous. Et le Père va me suivre. Et vous allez devenir quoi? Le temple du Saint-Esprit. Et on lit dans notre Matthieu 14, qu'est-ce qui se passe? Je vous enverrai un consolateur. L'Esprit Saint, on l'a parlé, le Consolateur, celui qui va nous parler, celui qui va nous travailler, celui qui va changer notre entendement, celui qui va changer nos pensées. On va dire, Saint-Esprit, j'accepte que tu changes ma pensée. Et puis là, il va envahir la pièce et il va changer ton cœur. Et c'est Ézéchiel qui a prophétisé, qui a dit, écoutez, à un moment donné, je vais changer vos cœurs de chair en cœur de vos cœurs de pierre en cœur de chair et j'enverrai quoi? L'Esprit de Dieu. Ézéchiel, il l'a prophétisé. Nous, on le vit aujourd'hui. Et le problème, c'est qu'on est dans ces temps de grâce. On est dans ces temps où on a un accès au Père incroyable. Où Jésus a dit, mais tu vas faire ma volonté et en plus, tu vas faire des plus grandes choses que moi. Où on veut juste être semblable à lui. Et parfois, on se contente d'avoir notre petite vie chrétienne. Mais purée, Ézéchiel, il nous regarderait, il dirait, mais vous êtes mignons les gars, mais il y a une promesse pour vous, mais rentrez dedans. Vous voyez? Et eux, ils ont prophétisé, ils ont vu, ils auraient aimé connaître ça. Ils n'ont pas connu ça. Ils ont connu, voilà, une foi différente. Ils avaient la foi. Mais il y a une question de relation. On va plus loin, on peut toucher le cœur du Père au travers du Fils. Mais le problème, c'est que c'est la question de se décentrer. Seigneur, je t'accepte dans ma vie. Je me décentre de ma vie, de mon travail, de mes problèmes, de mes fardeaux. Et puis j'accepte maintenant de te contempler, de contempler ta gloire. Seigneur, tu es glorieux, tu es magnifique. Je veux faire ta volonté. Et pour qu'à un moment donné, je puisse être semblable à lui. Ça vous va? Et j'ai une deuxième image. Je vais vous raconter comment elle est arrivée, cette image. C'était mercredi ou jeudi. Je travaillais dans une maison en ruine. Et puis, je travaillais avec un ami qui est chrétien. Et puis, on travaille dans cette maison et c'est vraiment une ruine. Hein. De la cave au grenier. Samuel, il connaît, je l'ai emmené là-bas un petit peu, il y a passé quelques heures. Une ruine. Tu rentres là et tu te dis, mais qu'est-ce qu'on fait là? C'est la maison de Joanne. Et Joanne, quand il rentre là, il déprime. Il dit, à chaque fois que je viens, c'est pire en pire. T'enlèves tout, tu casses tout. Elle dit, je suis obligé de tout casser, c'est pourri. C'est pourri de la tête jusqu'en bas. L'eau a coulé depuis des années, ça a tout pourri. La façade était à la limite de s'écrouler, c'était une catastrophe. Et en fait, au plus on a cherché, au plus on a fouiné, au plus c'est de pire en pire. Donc on découvre des choses. Il y a un champignon par là, et puis de la pourriture par là, et puis une catastrophe. Et il me regarde et il me regarde comme ça, d'un coup on ne parlait pas. Et il me dit, franchement, quelle image cette maison. Finalement, on peut avoir des fondations solides, mais si le Père ne couvre pas nos têtes, eh ben on pourrit par le haut. Je l'ai écouté. Je dis, purée, c'est une parole forte. Et puis, sais-tu, il a continué son petit travail, là. Mais j'étais là, j'arrivais plus à travailler. Je dis, c'est fort ce qu'il vient de dire là. Parfois, on a des fondations solides, notre enseignement, notre théologie, nos doctrines, toutes ces choses-là. Mais nos pensées, elles ne sont pas couvertes par le Saint-Esprit. Elles ne sont pas couvertes par le Saint-Esprit. Et là, il y a des mauvaises pensées qui commencent à arriver. Et tu commences petit à petit à pourrir de l'intérieur. Et vous savez, dans cette maison, eh bien, quand on a enlevé la charpente, on prenait les briques les plus hautes, on les prenait comme ça, on les enlevait. Le ciment, c'était devenu du sable. Et Jésus nous parle de ça. Et il dit, eh bien, quand tu ne suis pas mes commandements, quand tu ne fais pas ma volonté, ben en fait, tu construis sur le sable. Et ça, c'est toutes les paraboles de Jésus. Tu es en train de construire sur le sable quelque chose qui ne va pas durer. C'est peut-être beau, ça a peut-être de l'allure, il se passe peut-être des grandes choses, parce que moi, je ne me renierai jamais quand on parle de moi. Et j'utiliserai même les moments où il y a la foi quelque part. Vous savez, Dieu, il se nourrit de notre foi. Là où il voit qu'il y a un petit peu de foi, ah, il apparaît. Sa présence, elle arrive. Ah, t'as un petit peu de foi, je suis là. C'est comme ça que Jésus fonctionne. Mais ce que je veux, c'est que tu suives mes commandements. C'est que tu suives mon cœur, que tu aies mon cœur, que Jésus vienne vivre en toi, que le Père vienne vivre en toi et que le Saint-Esprit agisse en toi. Et Paul a dit que les commandements de Dieu sont inscrits dans notre cœur. La loi de l'Éternel est maintenant inscrite dans notre cœur. Ce n'est plus inscrit sur des tables et des règles qu'on doit suivre. C'est inscrit dans notre cœur. Et c'est le Saint-Esprit qui les inscrit par des lettres de feu. Et ça brûle en toi. Tu sais ce que tu dois faire. Dans les situations de ton quotidien, tu sens ça bouillonne. Le Saint-Esprit dit, fais pas ça! Toi, t'as pas envie d'écouter parce que t'es dans ta vie. Et il revient parce que, vous savez, le Saint-Esprit, il va pas vous violer. Il va pas s'imposer. C'est un gentleman. Mais il vient, il te parle, il dit, fais pas ça. Il faut que tu me suives. Et puis, il y a un verset qui te revient. Il y a une parole qui revient à quelqu'un qui t'appelle. Il se passe quelque chose de fort. Et puis, toi, tu dis non. Et puis, tu tombes. Et puis la deuxième fois, tu as compris. Saint-Esprit, je vais t'écouter. Il faut que ma tête, elle soit couverte là. Il faut que je sois protégé. Il faut que mes pensées, elles ne dérivent pas. Il ne faut pas que je sois une copie des copies. Il faut que je suive le Christ. Ça marche ? Alléluia. Ézéchiel 36, versets 26 à 27. Ça, c'est un de mes versets préférés. On l'a lu. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et vous ferai en sorte que vous suiviez quoi ? Mes ordonnances et que vous observiez en pratique mes lois. En pratique mes lois. Dans mon quotidien, dans les choses simples de cette vie. Et on parlait de la louange. Et on parlait de l'adoration aux fondamentaux la semaine passée. Et c'était Joe qui nous enseignait. Et puis il nous a parlé de l'adoration. Et c'est vrai que souvent l'adoration pense que c'est la louange. Je leur ai posé la question, c'est quoi l'adoration ? Ils m'ont dit, c'est louer Dieu. Ben, je dis, c'est une partie louer Dieu. C'est une expression de notre adoration. Et encore, tu peux louer sans adorer. Et puis on est parti dans les choses qui touche le cœur du Père, adorer Dieu. L'exemple que je vous ai donné par rapport au pardon, quand tu fais un vrai pardon, que tu acceptes de pardonner, que tu dis Jésus c'est bon, viens consoler mon cœur, ça c'est l'adoration. Toutes ces choses-là, lorsque tu es fidèle à ton Dieu dans les choses les plus, c'est l'adoration. Tu n'es pas en train de chanter, tu n'es pas en train de faire shababa, shababa. C'est vraiment l'adoration qui touche le Père. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Alléluia. Alors l'évangile est simple, j'accepte Jésus, viens vivre en moi, j'accepte comme mon Seigneur, transforme ma vie, et qu'est-ce que je reçois ? Le Saint-Esprit. Est-ce que tout le monde a reçu le Saint-Esprit ici ? Ouais ? Ils ont peur de lever la main. Est-ce que tout le monde a reçu le Saint-Esprit ici ? La puissance qui consume, qui nous envoie en feu. Oui. Parce qu'il dit, si tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit, c'est que peut-être je ne suis pas ton Dieu, en fait. Vous voyez l'idée ? Il y a ces gens qui ont voulu faire comme Jésus. Hein. Ils sont là et Jésus fait des miracles. Et il dit, attends, mais moi, je vais commencer à prier dans le nom de Jésus. Je vais les magiciens, là. qui ont commencé à faire comme Jésus, ils ont voulu copier. Et puis le démon, il leur a parlé, il a dit, attends, moi je connais Paul, je connais Jésus, mais toi t'es qui? Ils n'avaient pas le même esprit. Et nous, on veut avoir cet esprit qui bouillonne en nous. On a eu la semaine passée, il y a deux semaines, on a parlé de commencer par l'esprit, commencer par l'esprit, ne pas finir par la chair. Ne soyons pas des copies des copies. Ensuite, on a parlé de Claudio, il nous a parlé de, ça revient, Claudio, il nous a parlé de que l'Église c'est ensemble, hein. On travaille ensemble, on est complémentaires, on est un corps, le même esprit. On a Wilfried qui nous a parlé du fait que, l'Église, quand je suis envoyé en fait, moi quand j'ai reçu Jésus, je veux donner. Alors est-ce qu'on a donné cette semaine? Qui a donné cette semaine? Là, il y a moins de mains qui se lèvent. Si on a donné cette semaine, on a communiqué l'Évangile, parce que c'est les ordonnances de Dieu. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Est-ce que j'ai eu l'occasion de témoigner? Moi, je me pose souvent cette question-là. Seigneur, cette semaine, c'était un peu maigre. Il faudrait que la semaine prochaine, il y ait un peu plus. Après, on a eu Chris qui nous a parlé de cette autorité. On pouvoir entrer dans l'autorité, être assis à la droite du Père. Et moi, je veux conclure toutes ces trois semaines en disant, tu veux être dans l'autorité, suis les commandants de ton Père. Arrête de suivre tes sentiments. Si tu suis tes sentiments, mais ce n'est pas la peine. C'est la chair qui va te conduire vers la mort. Mais c'est Seigneur, je sais que tu veux ça pour moi. Tu m'as touché, tu m'as convaincu. Maintenant, je veux te suivre. Mais c'est vrai qu'on aimerait toujours que le Seigneur soit à côté de nous, nous fasse sentir quelque chose, genre dans la rue. Je suis enflammé et puis je vais au bureau. Une petite dose de feu. On aimerait, hein, ce serait plus simple. Mais il dit, on croit en Dieu de l'invisible, on l'a chanté. Mais il dit, je suis là. Et vous savez, la dernière chose, mon dernier point, je recherche le verset, il y a une condition, on parle de l'amour inconditionnel de Dieu, mais moi je vais parler de l'amour conditionnel de notre Dieu. Donc on va reprendre Jean 14. Alors, au verset... Alors, on a la condition, d'accord? Déjà, la première, c'est dans le verset 6. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et ensuite, au verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Si tu veux être aimé du Père, il faut l'aimer aussi. Parce qu'il t'aime, il aime l'humanité, mais si tu veux vraiment vivre... Moi, je fais cette relation entre la faveur de Dieu. Si tu veux la faveur de Dieu dans ta vie, il est nécessaire que tu suives ses commandements. Parce que tu es en train de lui prouver que tu l'aimes. Et là, le Père, il dit, waouh, qu'est-ce que tu m'aimes! J'envoie la bénédiction sur ta vie. Vous voyez? Et parfois, on veut la bénédiction de Dieu dans notre volonté, mais ce n'est pas la volonté du Père. Et après, on pleure parce que Dieu ne se manifeste pas. Mais il te dit, ce n'est pas ma volonté. Comment je peux te bénir dans ça? Et vous savez, quand on fait les suivis au baptême, moi je dis, il y a deux ordonnances que Dieu nous a données, deux seules choses qu'on doit suivre, c'est le baptême et la Sainte Cène. Le reste, on est libre, on vit notre vie, la loi est gravée sur notre cœur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de loi, mais les deux choses qu'on doit faire, c'est le baptême et la Sainte Cène. Et quand j'appelle, on donne notre vie à Jésus, on sent qu'on est attiré vers le baptême. On dit, Seigneur, le baptême, c'est j'abandonne ma vie, mon ancienne vie, elle tombe dans l'eau, je ressuscite avec toi et je vis une vie nouvelle. C'est ça que veut dire le baptême. Et moi, je dis aux gens, et je pose la question, est-ce que ça, c'est en règle dans ta vie? Est-ce que ça, c'est en règle dans ta vie devant Dieu? Est-ce que ça, c'est en règle dans ta vie? Parce que si tu n'es pas prêt à abandonner ça, ça et ça, ça ne sert à rien de te baptiser. Parce que le baptême, c'est abandonner ton ancienne vie. Vous voyez l'idée? Et ensuite, la Sainte Cène, c'est la même chose. C'est quelque chose qui nous rappelle de ne pas copier la mauvaise clé. Où on arrive là et puis, Seigneur, qu'est-ce que je fais de ma vie en ce moment? Comment elle fonctionne? Comment elle tourne? Comment tourne mon quotidien? C'est toi d'abord. Et Seigneur, je veux me souvenir que le plus grand prix, c'est toi qui l'as payé. Et que si je suis trop dans mon travail et que mon travail, ça devient mon idole, je vais commencer à faire demi-tour. C'est pas que je vais arrêter de travailler, mais c'est que ce ne sera pas mon idole. Si mes richesses commence à être un petit Dieu dans ma vie, je vais commencer à faire demi-tour. Ça nous rappelle à chaque fois ce que Jésus a fait. Et ça nous ramène toujours vers qui? Pas vers Sainte Rita, Sainte Catherine, Sainte Machin. Ça nous ramène toujours vers qu'est-ce que Jésus a fait. Ça ne te ramène pas vers ton enseignement et ce que tes parents t'ont dit. Ça t'amène vers ce que Jésus a fait. J'ai donné ma vie pour toi. Sois renouvelé maintenant. Et à chaque fois, on a deux choses où on doit se remettre en question. Voilà, le baptême, c'est une fois, c'est fait une fois, c'est réglé. Et puis ensuite, c'est la Sainte Cène. Je viens et il y a une puissance quand on est ensemble. Ça marche ? Quand on est ensemble, il y a une puissance dans ces choses-là. Parce que moi, je suis peut-être faible aujourd'hui, mais toi, tu vas m'encourager. Écoute, regarde ce que Jésus a fait. Là, c'est dur pour toi en ce moment. Mais voilà, relativise. Il va venir t'aider. Crie à lui. Dis-lui que t'en as marre. Et il va soit te donner une nouvelle solution, soit il va façonner ton cœur. Parce qu'en fait, quand on se bat avec Dieu, moi j'appelle ça se battre avec Dieu, quand on se bat avec Dieu, on se bat avec sa volonté, mais en fait, on se bat dans l'optique où on a envie de faire sa volonté, mais on n'est pas capable. Donc on dit, Seigneur, viens, 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 et tu bagarres. Des fois, ça dure une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines, un mois, six mois, et à un moment donné, tu craques. Et tu dis, Seigneur, ok, je t'abandonne mon cœur. Le problème, c'est que ce qui est intéressant, c'est d'apprendre à le faire vite, ça. Comme ça, on va plus vite. Mais on est humain, on est compliqué. On a des caractères, on est susceptible. Et si tu es susceptible avec Dieu, avec Jésus, il était clair. Hein. Vous savez, les susceptibles, ils ont fait demi-tour. Hein. ils n'ont pas résisté. Hein. Parce qu'il était tellement clair. Suivez mes commandements si vous m'aimez. Ça marche ? Amen. Je vais arrêter là parce que je vous vois là, c'est... Dernière chose, la foi et l'amour de Dieu, sachez que c'est indissociable. Tu ne peux pas juste avoir la foi et pas avoir l'amour, avoir l'amour sans avoir la foi. L'amour vient par ta foi. Ça va ? Ce n'est pas un état d'esprit et ce n'est pas juste une façon de vivre. C'est Christ qui vit en nous. Alors on va prier.